On est lundi et il est midi et demi. Tout de suite, le journal de France Culture. Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Au lendemain des attentats qui ont fait 290 morts au Sri Lanka, les autorités ont déclaré l'état d'urgence. Le gouvernement annonce par ailleurs qu'un mouvement islamiste local serait à l'origine de ces attaques suicides.
Occasion d'un nouveau départ ou dangereux saut dans l'inconnu en Ukraine.
5 ans après la révolution pro-occidentale du Maïdan, les Ukrainiens ont élu triomphalement hier à la tête de leur pays un comédien et humoriste totalement novice en politique, Volodymyr Zelensky. En France, le parquet de Paris a annoncé hier avoir ouvert une enquête après que le slogan « Suicidez-vous » a été scandé samedi dernier par des manifestants à l'intention des membres des forces de l'ordre. Et puis toujours à l'occasion de cette 23e journée de mobilisation des Gilets jaunes, 2 reporters indépendants ont été placés en garde à vue. Reporters sans frontières dénoncent des atteintes à la liberté d'informer. Enfin, l'invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, notre confrère Christian Chéneau, qui avec Georges Malbruno vient de publier un livre intitulé « Qatar Papers, comment l'Émirat finance l'islam de France et d'Europe ». Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
On ouvre la discussion avec notre invité, le politiste Philippe Reynaud, autour de la laïcité. C'était un des thèmes inscrits au programme du grand débat national dont on attend encore les conclusions par le président de la République. On va revenir sur cette exception ou singularité française telle que le présente Philippe Reynaud et interroger sa place dans le consensus républicain aujourd'hui.
Merci, à tout à l'heure. Les scènes de carnage hier ont éveillé des souvenirs traumatiques que le Sri Lanka, meurtri par 3 décennies de guerre civile avec les séparatistes tamouls, espérait pourtant avoir définitivement abandonné derrière lui. Même si les tensions interreligieuses et plus encore ethniques restaient fortes, jamais l'île d'Asie du Sud-Est n'avait connu un tel déchaînement de violence. Les attentats coordonnés qui ont frappé plusieurs églises catholiques en pleine messe de Pâques, mais aussi des hôtels de luxe de la capitale ont fait au moins 290 morts et 500 blessés. Alors ce matin, même si la vie a dû reprendre un cours en apparence normal, on a appris que 87 détonateurs de bombes avaient été découverts dans une station de bus de la capitale Colombo. Par ailleurs, l'état d'urgence a été décrété. Plusieurs écoles sont également restées fermées. Et pour limiter la fréquentation de la voie publique, le pays a déclaré 2 jours fériés. Notre correspondant Antoine Guinard s'est lui rendu ce matin dans une église de la capitale dévastée hier par les attentats.
Des éclats de verre jonchent encore la route qui passe devant ce monument symbolique de Colombo, éventré par l'attentat à la bombe de dimanche. Derrière le cordon policier qui ceinture l'entrée de l'église Saint-Antoine, son administrateur, le prêtre Jude Fernando, était présent pendant les attentats et raconte la scène.
Je suis vivant par la grâce de Dieu. À 8h45, l'explosion a retenti. Je n'avais jamais entendu une telle explosion. J'ai vu dans l'église les dégâts, les morts, les blessés. Avec l'aide du prêtre, on a évacué les blessés vers l'hôpital, puis les forces de sécurité sont venues en renfort.
À quelques rues de là, une famille se recueille autour du corps d'un père de famille tué dans l'explosion de l'église Saint-Antoine pendant la messe de Pâques. Sa belle-sœur, une religieuse vivant à Rome, est revenue en urgence de l'étranger, comme de nombreux Sri Lankais expatriés dont les proches ont été touchés par ces attentats.
Je viens d'arriver, j'étais à Rome et j'ai eu le dernier billet d'avion. Je voulais donner de la force et du soutien à ma famille. Quand j'ai appris la nouvelle, je sortais de la messe du soir. Quand on m'a dit qu'il y avait eu une explosion à l'église Saint-Antoine, je savais que toute ma famille devait y être. J'essayais de les appeler, mais personne ne répondait au téléphone.
Plusieurs veillées et événements commémoratifs sont prévus dans les jours qui viennent pour la communauté chrétienne la plus directement touchée par ces attentats, mais aussi l'ensemble des Sri Lankais. Ces actes de violence viennent briser 10 années de paix et d'harmonie, malgré les tensions intercommunautaires parfois palpables ces dernières années.
Alors si les attentats d'hier ont de nouveau replongé l'île dans le cauchemar de la violence, ils suscitent aussi de très nombreuses questions. Ce matin, le gouvernement a annoncé qu'un mouvement islamiste local pourrait être derrière ces attentats. Pour autant, il n'y a toujours pas eu de revendication. Précisons également que ces dernières années, le Sri Lanka, majoritairement bouddhiste, n'a pas été le théâtre de la montée de ce que l'on pourrait qualifier d'un extrémisme musulman. Par ailleurs, et même si la religion est loin d'être un sujet dépassionné sur l'île, les relations en l'occurrence entre les deux minorités religieuses, chrétiennes et musulmanes ont toujours été plutôt cordiales par le passé. Quoi qu'il en soit, le gouvernement a donc annoncé l'arrestation au total de 24 personnes appartenant à un groupe dit radical. Les précisions du correspondant de RFI pour France Culture, Sébastien Farcy.
Ces attaques ont été perpétrées par des Sri Lankais avec l'aide d'un réseau terroriste international. Rajita Senaratne, le porte-parole du gouvernement, offre ici la première piste vers l'identification des terroristes de ce dimanche de Pâques. Il affirme que 7 kamikazes sont responsables des explosions dans les églises et les hôtels de luxe de l'île et qu'ils sont tous morts sur le coup. Selon le gouvernement, dit-il, c'est le groupe local du National Tawhid Jamaat qui en est responsable. Cette organisation islamiste locale d'influence wahhabite milite pour l'instauration de la charia dans l'est du Sri Lanka et a récemment vandalisé des effigies bouddhistes. Aucune preuve ni revendication n'ont pour l'instant été apportées pour étayer ces accusations, mais les services sri lankais de renseignement avaient prévenu il y a 10 jours déjà que le Tawhid Jamaat semblait sur le point d'attaquer des églises. L'ampleur de l'assaut et le choix de viser des lieux chrétiens et non bouddhistes indiquent une possible implication d'un groupe djihadiste international comme l'organisation de l'État islamique qui est déjà présent au Bangladesh et aux Maldives voisins. Ce soir, le couvre-feu sera imposé pour la 2e nuit consécutive au Sri Lanka et le président va signer un décret offrant aux forces de sécurité des pouvoirs spéciaux pour la lutte antiterroriste.
Et précisons que si les autorités du Sri Lanka ont effectivement reconnu qu'elles avaient sous-estimé il y a une dizaine de jours des informations du chef de la police nationale, le Premier ministre a lui aussitôt précisé que ni lui ni les ministres de son gouvernement n'avaient été tenus informés de ces éléments. Manière peut-être de faire porter la responsabilité sur le président, le premier responsable des forces de sécurité, étant entendu que les relations entre les deux hommes sont exécrables depuis que le président a tenté de limoger le Premier ministre dans des conditions rocambolesques. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque perpétrée hier sur un QG des services de sécurité en Arabie Saoudite. 3 policiers ont été légèrement blessés, les 4 assaillants, eux, ont été tués. Précisons que ces dernières années, le royaume wahhabite, pays membre de la coalition dirigée par les États-Unis, intervenant en Irak et en Syrie, est visé par de nombreuses attaques djihadistes, revendiquées notamment par Daesh et Al-Qaïda. Après s'être résigné à la chute d'Omar al-Béchir, Riyad, mais aussi Abu Dhabi ont confirmé hier leur soutien au Soudan en annonçant un dépôt de 500 millions de dollars dans la banque centrale du pays, de même qu'une somme de 2,5 milliards destinée à financer les besoins du peuple soudanais en produits alimentaires, médicaments et produits pétroliers. Il faut dire que l'Arabie Saoudite, comme les Émirats, allergiques aux bouleversements incontrôlés comme ceux qui avaient conduit aux printemps arabes de 2011, craignent par-dessus tout une descente aux enfers du Soudan qui déstabiliserait la de l'Afrique et risquerait ainsi de nuire à leurs intérêts dans la région. De leur côté, les chefs de file du mouvement de protestation ont non seulement annoncé la suspension des discussions avec l'armée, mais appelé par ailleurs à intensifier les manifestations, réclamant un transfert rapide du pouvoir à une autorité civile seule en mesure de garantir à leurs yeux une véritable transition politique. L'actuel président égyptien et ancien maréchal Al-Sisi, lequel n'a jamais caché son mépris pour la révolte populaire qui avait eu raison du président Moubarak, devrait bientôt savourer un pouvoir redevenu sans contrainte, ou presque. Depuis ce week-end, les Égyptiens sont appelés à se prononcer par référendum sur une refonte de leur constitution. Depuis que les bureaux de vote ont ouvert, c'était samedi dernier, la télévision et les journaux, étroitement contrôlés par le gouvernement, diffusent des images de grande affluence et se félicitent du bon déroulé des opérations, sans jamais toutefois évoquer la réforme sur le fond, censée permettre au chef de l'État de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2030 au lieu de 2022. Par ailleurs, et au-delà de la prolongation de sa présidence, cette révision constitutionnelle lui permettra également d'accroître son contrôle sur le système judiciaire. Enfin, elle devrait octroyer un pouvoir politique à l'armée, pilier du régime. Après de violents combats contre les troupes du maréchal Haftar aux portes de la capitale Tripoli, les forces fidèles au gouvernement libyen, reconnues par la communauté internationale, ont réussi hier à repousser les troupes de leur adversaire et consolider leur position. Pendant ce temps, l'impasse persiste au Conseil de sécurité où le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France s'efforcent de faire approuver une résolution réclamant un cessez-le-feu et un accès humanitaire inconditionnel aux zones de combat. Sauf que les États-Unis, mais aussi la Russie, pour une fois sur une même ligne, n'y sont pas favorables. C'est le dernier épisode spectaculaire en date de cette vague anti-élite désormais mondiale. Hier, et comme attendu, le dégagisme en Ukraine aura vu un comédien de 41 ans, non seulement sans aucune expérience politique, mais qui aura lui-même pendant 20 ans tourné en dérision la politique de son pays, devenir président. Après dépouillement de 85% des bulletins, l'ancien humoriste Volodymyr Zelensky a recueilli un peu plus de 73% des suffrages contre un peu moins de 25% pour son adversaire, l'ex-chef d'État Petro Poroshenko. Alors, même s'il est assez aisé de comprendre contre quoi les Ukrainiens ont voté, à commencer contre le système dont Poroshenko était un vétéran, mais aussi la corruption, sans oublier un conflit armé à l'origine de près de 13 000 morts. En revanche, il apparaît beaucoup moins évident de savoir pour qui les Ukrainiens se sont effectivement prononcés. Car à ce titre, celui qui est devenu hier soir le nouveau président du pays a toujours entretenu le flou sur son programme sans jamais véritablement lever le voile. Claude Brouillot, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes notre envoyé spécial en Ukraine. Au fond, la victoire hier de Zelensky ouvre d'abord et surtout une page riche en incertitudes et qui pourrait d'ailleurs, Claude, présager l'ouverture d'une nouvelle phase de lutte politique.
Voilà, absolument. 5 mois vont séparer maintenant la présidentielle des législatives. Et quand on connaît l'influence de la Rada, le Parlement ukrainien, sur la politique intérieure, mais également sur la politique étrangère du pays, ce délai s'annonce crucial à négocier, car Volodymyr Zelensky a bien un parti, créé il y a quelques semaines pour les besoins de sa cause, qui s'appelle d'ailleurs le Serviteur du Peuple, pour reprendre le titre de la série télévisée dans laquelle il incarnait un professeur d'histoire, vous savez, qui devient président. Mais pour que son parti absent pour l'instant, donc au Parlement, soit crédible, il faut que Volodymyr Zelensky, Thomas, très vite, prenne 2 ou 3 mesures symboliques.
Alors justement, il faut le préciser, Claude, l'Ukraine est aujourd'hui au bord du gouffre financier. Même si le pays a certes bénéficié d'un plan d'aide occidental, elle devra rembourser d'ici 3 ans plus de 20 milliards de dollars de dette publique. Dès lors, quelle peut être donc la marge de manœuvre de Zelensky et quel type de mesures concrètes, effectivement, est-il susceptible, Claude, d'offrir pour asseoir, en somme, sa crédibilité ?
Alors, on parle ici déjà, par exemple, de piocher dans la réserve, la petite réserve budgétaire, pour augmenter justement les enseignants, moins nombreux que les retraités, mais qui attendent eux aussi d'ailleurs une revalorisation de leurs pensions. Pourfendeur de la corruption des élites, Zelensky est très attendu également sur ce terrain-là. Quand on sait que NABU, l'organisme chargé de mener les enquêtes dans tout le pays, ne dispose que de 700 personnes, la solution serait peut-être déjà simplement d'augmenter les effectifs afin de gagner en efficacité. Mais là où les choses se compliquent vraiment dans ce domaine de la lutte contre la corruption pour Volodymyr Zelensky, c'est la dépendance de l'organisme en question vis-à-vis des services de sécurité et d'enseignement. S'il veut frapper un grand coup, Zelensky doit très tôt garantir l'indépendance de la lutte anticorruption en Ukraine sans se mettre à dos, dès le début de son mandat, les forces de sécurité.
Merci Claude Brouillot, envoyé spécial en Ukraine. Signe du divorce entre citoyens et politiques, le premier tour de l'élection présidentielle organisée hier en Macédoine du Nord aura été marqué par une participation historiquement faible. Moins de 4 électeurs sur 10 se sont déplacés, soit le plus faible taux depuis l'indépendance de l'ex-petite république yougoslave. Au terme d'une campagne notamment dominée par les profondes divisions, engendrées par l'adoption controversée d'un accord avec la Grèce ayant entraîné le changement de nom du pays en République de Macédoine du Nord, le candidat pro-occidental soutenu par la coalition centriste au pouvoir est arrivé très légèrement en tête, devançant d'un souffle la candidate de l'opposition. Sa nouvelle inculpation était attendue ce matin, jour de l'expiration de son actuelle période de détention. Carlos Ghosn a de nouveau été inculpé d'un chef d'accusation supplémentaire d'abus de confiance aggravé par le parquet de Tokyo. Le constructeur japonais Nissan dit avoir pris cette initiative après avoir déterminé que les paiements versés à une société de vente de véhicules à l'étranger avaient en réalité été dirigé par Carlos Ghosn pour son enrichissement personnel. Après plus de 5 mois de mobilisation et à quelques jours des réponses d'Emmanuel Macron au grand débat attendu jeudi, des milliers de gilets jaunes étaient à nouveau dans la rue samedi dernier pour un 23e acte marqué notamment par des slogans « Suicidez-vous » lancés aux forces de l'ordre. Alors même, rappelons-le, que la police est aujourd'hui touchée par une vague de suicides sans précédent depuis le début de l'année, des slogans vivement condamnés par la classe politique et les syndicats de policiers. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. Et puis, toujours à l'occasion de ce samedi de mobilisation, mobilisation. Deux journalistes ont été interpellés. L'un d'entre eux se trouve toujours en garde à vue. Gaspard Glanz est entendu notamment pour participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour.
La garde à vue de Gaspard Glanz a d'ailleurs été prolongée encore hier de 24 heures.
Oui, et cette interpellation suscite de nombreuses réactions, celle du Syndicat national des journalistes et de Reporters sans frontières notamment, qui dénonce des atteintes à la liberté d'informer. Alors que s'est-il passé exactement ce samedi 20 avril? Eh bien, on le sait car la scène a été filmée. Sur ces images, on voit que Gaspard Glanz est clairement identifiable comme journaliste. Il a un casque siglé TV, une caméra au point. Il va et vient le long d'une colonne de policiers, place de la République. Il réclame le commissaire. Une voix féminine lui demande ce qu'il se passe. Il répond « On m'a tiré dessus avec une grenade, ces connards ». Il renouvelle sa demande très énervé. « Il est où le commissaire ?» Après s'être approché environ un mètre des policiers, l'un d'entre eux le bouscule et le repousse violemment. Gaspard Glanz lui fait un doigt d'honneur. La foule proteste. On entend un homme dire « C'est la presse ». Le journaliste s'éloigne. Puis, quelques instants plus tard, un policier se jette sur lui, accompagné de plusieurs collègues qui le saisissent et l'emmènent pour l'interpeller. D'autres policiers écartent les manifestants qui protestent à coups de matraque. Gaspard Glanz est ensuite menotté. Sa garde à vue a donc été prolongée et devrait prendre fin dans le courant de la journée. La garde à vue peut en effet être prolongée au-delà de 24 heures si l'infraction concernée est punie d'au moins un an de prison et sur autorisation du procureur. À noter que ça n'est pas la première fois que Gaspard Glanz est en conflit avec les forces de l'ordre. Il est même fiché S comme individu susceptible de se livrer à des actions violentes. Il a porté l'affaire devant le Conseil d'État, mais sans succès.
Merci Antoine Maret. Après avoir suivi donc cette 23e journée de mobilisation des Gilets jaunes émaillée d'incidents à Paris depuis l'Élysée, Emmanuel Macron est parti passer le week-end de Pâques en famille dans la maison de son épouse au Touquet, l'occasion de s'offrir hier un petit bain de foule dans la station balnéaire du Pas-de-Calais avant de replonger directement dans le grand bain politique cette semaine, plus exactement jeudi prochain lorsque le chef de l'État annoncera ses réponses au grand débat national, réponse dont on connaît d'ores et déjà en partie la nature. Le président devrait notamment annoncer son intention de faire travailler davantage les Français avec trois pistes en particulier. Moins de jours fériés, revenir sur la durée de travail hebdomadaire ou bien retarder l'âge de départ à la retraite. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Et puis toujours après le grand débat, donc place désormais à la grande conférence. Jeudi, Emmanuel Macron pourrait en effet également annoncer la tenue d'une conférence sociale et environnementale pour enfin sortir de la crise.
Oui, c'est ce que croit savoir nos confrères d'RTL ce matin. Emmanuel Macron pourrait, disent-ils, annoncer la tenue d'une conférence sociale et environnementale d'ici le début de l'été, conférence qui réunirait les syndicats des représentants du milieu associatif et de la société civile. C'est ce que proposait déjà le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, au tout début du mouvement des Gilets jaunes en novembre dernier, mais à l'époque, la proposition avait été écartée. Cette fois, si ça devait se confirmer, il s'agirait de réfléchir à la manière de financer les baisses d'impôts, l'allongement de la durée de vie et la dépendance. À ce stade, vous le disiez, plusieurs pistes seraient envisagées. 1. La suppression des 35 heures. 2. L'allongement de l'âge de départ en retraite. Le MEDEF propose qu'on passe à 64 ans. Et 3. La suppression d'un ou de plusieurs jours fériés, ainsi que ça s'était fait en 2004. Jean-Pierre Raffarin avait alors décidé de supprimer le lundi de Pentecôte. On verra jeudi si le chef de l'État propose bel et bien la tenue d'une telle conférence autour de ces pistes de réflexion, ou bien s'il s'agissait, encore une fois, de ballons d'essai qu'on lance pour voir comment réagit l'opinion. En tout cas, on peut constater qu'à la faveur du grand débat, Emmanuel Macron semble avoir infléchi sa position vis-à-vis des corps intermédiaires, que ce soit les syndicats ou encore la presse, avec qui il entretenait jusqu'ici des relations assez fraîches. Puisque jeudi, il a décidé de faire ses annonces de sortie de crise au cours d'une conférence de presse, la toute première depuis son élection il y a 2 ans. Il devrait y confirmer un certain nombre de propositions qu'on connaît déjà, puisqu'il y a eu des fuites dans les médias. Il devrait notamment annoncer la réindexation des petites retraites sur l'inflation, ou encore la suppression de l'ENA. Mais il sait aussi qu'il doit se réinventer car il est attendu au tournant et donc faire peut-être de nouvelles propositions et puis surtout fixer un cap pour ce qui nous est promis comme étant le début d'un acte 2 et une relance de son quinquennat.
Merci Stéphane Robert. L'invité aujourd'hui de la rédaction, notre confrère Christian Chéneau. Bonjour Christian.
Bonjour.
Vous venez de publier avec Georges Malbruno un livre chez Michel Lafon intitulé « Qatar Papers, comment l'Émirat finance l'islam de France et d'Europe ». Alors, Pour être tout à fait précis, votre enquête cible surtout une ONG qatarienne qui ressemble à première vue à toutes les autres organisations humanitaires. Ce petit détail près que Qatar Charity, donc c'est son nom, est la plus puissante ONG de l'Émirat, comprenez la plus riche, et qu'à ce titre, elle a investi depuis plusieurs années déjà des dizaines de millions d'euros dans près de 150 projets à travers toute l'Europe. Des projets de quelle nature, Christian?
Ce sont essentiellement des centres islamiques, des mosquées, des lycées, des associations. Et donc, ce qu'on découvre, avec une grande surprise d'ailleurs, c'est que le Qatar a un soft power religieux. On connaissait le soft power immobilier, sportif, économique, culturel, médiatique. Et là, c'est vrai que ces 140 projets, alors qui vont du pôle nord norvégien à dans le Grand Nord, jusqu'à la Sicile, l'Ukraine, la Pologne, Jersey, Lugano en Suisse, le Luxembourg et évidemment la France. C'est vrai que ça interpelle parce qu'on ne pensait pas que le Qatar avait cette volonté finalement de peser sur l'islam de France et d'Europe. Et là, on voit donc un projet bien organisé, sophistiqué, avec des ramifications partout en Europe et surtout qui s'appuie sur un réseau préexistant, celui des frères musulmans qui s'est établi dans les années 50-60 en Europe.
C'est ce que vous avez effectivement découvert, c'est que au sein donc de Qatar Charity, cette fameuse ONG, existe un programme de prosélytisme directement inspiré finalement de l'idéologie des frères musulmans.
Tout à fait. Ce programme s'appelle El Reis, qui veut dire la pluie en arabe. Et donc vous avez donc cette ONG qui est, j'allais dire, comme MSF, Oxfam, donc qui intervient sur les terrains de guerre, sur les après des tremblements de terre, qui fait du développement en Afrique, etc. Eh bien, il y a tout ce versant un peu moins connu de prosélytisme, de projets religieux. Alors, ça concerne l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient, mais ça concerne l'Europe. Et ça, c'est intéressant parce que ça fait depuis une dizaine d'années que le Qatar, finalement, investit sur ce marché de l'islam en Europe.
À travers ces financements multiples, à travers donc l'Europe, faut-il parler d'une tentative de conquête de l'Europe pacifique par la prédication, par les idées ?
En tout cas, il y a vraiment une volonté d'influence, et c'est vrai que côté Qatar, et de cette ONG Qatar Charity, il y a un peu ce sentiment que il faut aider les musulmans en Europe qui sont minoritaires. Même si l'islam est la deuxième religion d'Europe, mais ils sont minoritaires dans la plupart des pays. Et donc l'idée, c'est de, j'allais dire, réislamiser les musulmans pour qu'ils ne perdent pas leurs racines et leurs traditions musulmanes. Donc on va les aider avec des projets dans les associations, à construire des centres culturels islamiques, des mosquées, parce qu'il y a un petit peu, j'allais dire, cette peur ou cette crainte que les musulmans d'Europe se dissolvent dans une Europe laïque, libérale, et que finalement perdent leurs repères musulmans. Et donc il y a cette volonté donc de réislamiser les musulmans, notamment la deuxième génération. Puis il y a aussi, faut le dire, une forme de prosélytisme pour essayer d'avoir des convertis et de s'étendre au-delà du simple cadre des musulmans.
Tous ces financements sont-ils légaux d'une part, et si oui, ces fonds qatariens sont-ils investis facilement ou bien rencontrent-ils des oppositions?
Alors, ces fonds sont légaux puisqu'ils passent par des associations, ils sont souvent déclarés, même si parfois c'est un peu sous le radar. Alors, parfois, il y a de l'argent qui passe par des valises. On a le cas, par exemple, de valises d'argent, de billets de banque qui sont passés de la Suisse pour financer l'institut de formation d'imams à Château-Chinon. C'était il y a une dizaine d'années. Vous avez des mécanismes assez sophistiqués par des SCI, des sociétés civiles immobilières, par des fonds de dotation, par des investissements dans l'immobilier. Donc voilà. Mais globalement, c'est légal. C'est pas de l'argent sale. Mais en même temps, il y a une forme d'opacité. Quand on a été voir sur le terrain les maires, quand on a été voir les responsables d'associations, alors soit on minimise les fonds, soit on dit ça n'existe pas, on dit c'est les fidèles qui financent, etc. Donc il y a quand même un peu de flou autour de tout ça. Et donc, il y a vraiment besoin d'une clarification, d'une traçabilité. Alors, parfois, ça bloque. Il y a le cas, par exemple, à Sesto San Giovanni, à côté de Milan, où effectivement le maire a voulu bloquer un gros projet de 5 millions d'euros en disant voilà, ce centre qui combine à la fois un lieu cultuel, donc une mosquée, et un centre islamique culturel, le maire a dit à la mairie, on a aussi des bibliothèques, des piscines, des activités pour les jeunes. Donc pourquoi construire un lieu spécifique aux musulmans?
Et pourquoi parle-t-on davantage en France des investissements du Qatar dans le sport, par exemple, que de son prosélytisme religieux?
Alors, le prosélytisme religieux, plus, c'est vrai qu'on l'a découvert, c'est une surprise, parce que, encore une fois, il n'y avait pas beaucoup d'indices. Hein. On savait que dans les années 2008-2009, le Qatar voulait favoriser un CRIF en France. Il y avait cette grande mosquée à Mulhouse, hein, l'une des plus grandes d'Europe, hein, 26 millions d'euros. Donc, il y avait quelques indices, mais on n'avait pas la cartographie. Hein. Et là, c'est vrai que ça interpelle, parce que quand on voit ce réseau de 140 projets, on voit que comme avant le Qatar, il y avait la Turquie, il y avait l'Arabie, il y avait les pays maghrébins. Eh bien, le Qatar veut lui aussi peser, parce que ça va dans une sorte de recherche d'influence, parce que c'est un petit pays immensément riche et donc il développe de l'influence.
Pour terminer, Christian Chéneau, à la toute fin de votre livre coécrit, donc je le rappelle, avec Georges Malbruno, vous posez une question à laquelle vous ne répondez pas, mais je vous la repose quand même. Qu'est-ce qui est mieux et que préfère la France, des pro-qatariens frères musulmans ou des pro-saoudiens salafistes?
J'allais dire ni l'un ni l'autre. L'enjeu, c'est de bâtir un islam endogène, un islam de France qui soit coupé des influences extérieures, parce que dans le livre on le raconte bien, c'est-à-dire que qui finance influence, et donc si on veut faire émerger un islam républicain qui s'installe dans l'Europe, bah il faut qu'il soit créé par les gens sur place.
Merci Christian Chéneau, je rappelle le titre de votre ouvrage, coécrit avec Georges Malbruno et publié donc chez Michel Lafon, Qatar Papers, comment l'Émirat finance l'islam de France et d'Europe.
Merci à vous.
On termine avec un mot rapide de météo, encore printanier du nord de la Seine au Grand Est et à la Franche-Comté, partout ailleurs. En revanche, le ciel sera fortement voilé. Quant aux températures, elles sont généralement comprises entre 19 et 26 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par François-Charles Domergue, et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.